Chapitre 28. Bizarrerie.
Quel est ton plan, mon époux ?
Demanda Fail. Après les pourparlers avec les fils, les deux jeunes gens étaient de retour sous leur tente. L'initiative de Perrine avait surpris sa femme, ce qui était à la fois stimulant et perturbant. Il enleva sa veste.
Je capte comme une bizarrerie dans le vent, Fail. Une odeur que je n'ai jamais sentie.
Il hésita.
Il n'y a pas de loup.
Pas de loup ?
Je n'en sens aucun dans les environs. Avant, il y en avait, mais ils sont partis.
Tu dis toujours qu'ils n'aiment pas approcher des gens.
Perrine retira sa chemise, dévoilant sa poitrine musclée couverte de boucles brunes.
Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'oiseaux et trop peu de créatures dans les broussailles. Que la lumière brûle ce maudit ciel. C'est lui le responsable ou il y a autre chose ?
Perrine soupira et s'assit sur le lit de camp.
Tu vas aller là-bas ?
Demanda Fail.
Quelque chose cloche, redit Perrine. Je dois savoir quoi avant le procès. Dans le rêve des loups, je trouverai peut-être des réponses.
Le procès.
Perrine, je n'aime pas du tout cette idée.
Tu es furieuse contre Megdine ?
Bien sûr que oui.
Les deux femmes avaient été captives à Malden ensemble, et Megdine n'avait jamais confié sa véritable identité, reine de ce fichu royaume d'Andorre, à Fail. De quoi la faire passer pour une idiote. Un peu comme un vantard de village ayant souligné ses mérites à l'escrime devant un voyageur porteur d'une épée au héron.
« Elle n'était pas sûre de pouvoir nous faire confiance, »
dit Perrine.
« Et elle fuyait un des rejetés, si j'ai bien compris. J'aurais agi comme elle. »
Fail foudroya son mari du regard.
« Ne me regarde pas comme ça. Elle n'a pas menti pour te ridiculiser, Fail. Elle avait ses raisons. Oublie ça. »
Fail se sentit un tout petit peu mieux. Il était si agréable de voir Perrine prendre confiance en lui.
« Du coup... je me demande qui est vraiment Lini. Une reine séanchanienne ? Maître Gil serait-il le roi de l'Arad Doman ?
Perrine sourit.
Selon moi, ce sont ses serviteurs. Gil est l'homme qu'il dit être, en tout cas. Balwer doit se lamenter de ne pas avoir découvert le poteau rose.
Je parie qu'il l'avait découvert.
Souffla Fail, en s'asseyant à côté de son mari.
Perrine, au sujet de ce procès, je suis sérieuse. Ça m'inquiète.
Je ne me laisserai pas prendre. J'ai seulement promis d'assister à des débats où ils pourront présenter des preuves.
À quoi bon ? Si tu ne comptes pas subir la sentence ?
Ça me donne plus de temps pour réfléchir, et ça m'épargnera peut-être de devoir les tuer. Leur chef, Damodred, son odeur est meilleure que celle de presque tous ces hommes. En lui, pas de colère ni de haine morbide. Grâce à ça, nous récupérons nos amis, et je pourrai plaider ma cause. Présenter sa vision des choses est important pour un type comme moi. C'est peut-être ce que j'attends depuis cette nuit-là.
Dans ce cas, d'accord. Mais à l'avenir, daigne me prévenir de tes plans tordus.
C'est promis,
fit Perrine en s'allongeant.
Pour être honnête, cette idée m'est venue sur le moment.
Fail retint ses imprécations, non sans difficulté. Au moins, il était sorti quelque chose de ses pourparlers. La rencontre entre Berelaine et Damodred. Fine observatrice, l'épouse de Perrine n'avait jamais vu les yeux d'une femme s'illuminer ainsi. Avec un peu de chance, il y aurait quelque avantage à en tirer. Des ronflements signalèrent à Fail que Perrine dormait déjà. Perrine était adossée contre une surface lisse et dure. Le ciel trop noir, presque maléfique du rêve des loups, bouillonnait au-dessus de la forêt où se dressaient des sapins, des chênes et des bouleaux. Perrine se leva et étudia la structure contre laquelle il était adossé. Une tour d'acier qui tutoyait le ciel tourmenté. Parfaitement droit et semblable à une seule et unique pièce de métal, cet édifice semblait totalement surréaliste. « Je te l'ai dit, » émit Sauteur. « Cet endroit est maléfique. » Le vieux loup venait de se matérialiser au pied de Perrine. « Stupide louveteau. »«
Je ne suis pas venu ici délibérément. J'y étais quand j'ai ouvert les yeux. »«
Ton esprit est focalisé sur cette tour, le tien ou celui d'un des deux pattes auquel tu es lié. »«
Matt, »
répondit Perrine, sans comprendre comment il savait ça. Les couleurs n'apparurent pas. Dans le rêve des loups, elle lui fichait la paix. « Aussi stupide que toi, cet humain. »«
Encore plus, peut-être. »
Sauteur parut ébahi, comme s'il doutait qu'une chose pareille soit possible.
« Viens, »
émit Sauteur. « C'est revenu. »«
Qu'est-ce qui ?»
Sauteur disparut. Perrine le suivit, puisqu'il avait appris à le faire. Désormais, capter l'odeur du lieu où le loup se rendait était un jeu d'enfant pour lui. Ils se retrouvèrent sur la route de Jeana, devant l'étrange mur qui divisait en deux le paysage. Perrine approcha d'un arbre. Ses branches nues, immobiles, semblaient enchâssées dans le vert.
« Nous avons déjà vu ce mur, il y a très longtemps, à des vies et des vies d'aujourd'hui. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Une création des hommes. »«
Sauter émit des images qui ne semblaient pas avoir de sens. Des disques volants scintillants, des bâtiments en acier impossiblement hauts, des réalités de l'âge des légendes. Comme pour une charrette ou une bougie, Sauter n'avait pas la moindre idée de l'utilité de ces choses. Perrine sonda la route et ne reconnut pas cette région du Gealdan. Ce devait être loin devant la position de son camp, près de Lugard. Donc, le mur était apparu à un autre endroit que la première fois. Une idée lui traversant l'esprit, Perrine recula sur la route. En quelques enjambées, il avala une centaine de pas. Puis il se retourna et ses soupçons furent confirmés. Ce n'était pas un mur, mais un dôme géant. Translucide avec des reflets violets, il semblait s'étendre sur des lieux. En un éclair, Sauter vint rejoindre son compagnon humain.
« Nous devons partir. Il est de l'autre côté, pas vrai ?»
Perrine tendit un bras. Danse entre les chaînes, étincelles et sans frontières y était aussi. Ils émirent des images et des odeurs indiquant qu'ils chassaient et qu'on les traquait.
« Pourquoi ne fuit-il pas ?»
demanda Perrine. Sauter n'émit aucune réponse précise.
« Je vais les rejoindre !»
annonça Perrine en se forçant à avancer. Rien ne se produisit. Le jeune homme en eut les entrailles glacées. Que se passait-il? Il essaya de nouveau, en visant cette fois la base du dôme. Là, ça fonctionna, et il se retrouva le nez quasiment contre la muraille de verre.
« C'est ce dôme, »
pensa-t-il.
« Il me bloque. »
Soudain, il comprit pourquoi les loups avaient émis des images pleines d'angoisse. Il ne pouvait pas s'enfuir. À quoi servait donc le dôme? Piéger des loups pour que tueurs puissent les massacrer? Perrine se colla à la surface violette. S'il ne pouvait pas traverser par la simple imagination, des méthodes plus rustiques fonctionneraient peut-être. Il leva une main, puis hésita. S'il touchait la surface violette, que risquait-il d'arriver? Les loups émirent l'image d'un homme en vêtements de cuir noir. Sur son visage dur et ridé, un sourire s'affichait chaque fois qu'il lâchait une flèche. Ce type empestait. Il sentait le loup mort. Perrine ne pouvait pas abandonner ses amis dans cet enfer. C'était la même félonie que de laisser Maître Guil et les autres entre les mains des capes blanches. Furieux contre tueur, il toucha le dôme. Aussitôt, ses muscles perdirent toute leur force. Devenu comme de l'eau, ses jambes ne parvinrent plus à le porter. Il tomba, rudement. Un de ses pieds toucha le dôme et le traversa. Cette structure semblait n'avoir aucune substance. Les poumons de Perrine ne remplissaient plus leurs fonctions, comme si ce gonflet d'air était devenu trop difficile. Il était piégé, autant que les loups. Une silhouette gris-argentée fondit sur lui. Gueule refermée sur l'épaule de l'humain, Sauter le tira à l'écart du dôme. En une fraction de seconde, Perrine retrouva sa puissance habituelle et il inspira à fond.
« Crétin de Louveteau, tu les abandonnerais ?»«
Pas crétin d'avoir fouillé le trou, abruti de ne pas m'avoir attendu, au cas où il en sortirait des frelons. »
Sauter se tourna vers le dôme.
« Tire-moi de là si j'échoue. »
Il avança, puis plaqua son museau contre le dôme. Titubant soudain, il parvint à rétablir son équilibre, puis avança doucement. De l'autre côté, il s'écroula, mais il était passé.
« Comment as-tu fait ça ?»
demanda Perrine en se relevant.
« Parce que je suis moi. »
La façon dont Sauter se voyait correspondait fidèlement à la réalité. Son odeur diffusait toujours de la force et un parfait équilibre. La clé, semblait-il, était de contrôler son identité et sa nature. Comme souvent dans le rêve des loups, la force de l'image mentale qu'on se faisait de soi était supérieure en puissance à la substance de cet univers.
« Viens, » émit Sauter, « sois fort et traverse. »«
J'ai une meilleure idée, » dit Perrine.
Il chargea comme un jeune taureau. Dès qu'il entra en contact avec le dôme, la sensation de faiblesse revint, mais son élan lui permit de traverser. S'arrêtant presque net, il tomba et grogna à cause d'une épaule douloureuse et d'un bras écorché.
« Idiot de Louveteau, tu dois apprendre. »«
Non, ce n'est pas le moment. »
Perrine se releva souplement.
« Il faut sauver les autres !»
Des flèches qui fendaient l'air, noires et mortelles. Le rire du chasseur. L'odeur d'un homme, mauvais et racine. Tueur était là. Sauter et Perrine coururent sur la route. À l'intérieur du dôme, découvrit le jeune homme, il pouvait augmenter sa vitesse à volonté et même bondir par la force de la pensée. En revanche, quand il tenta de se propulser dehors, rien ne se passa. Donc, le dôme était une prison. À l'intérieur, il pouvait se déplacer librement, mais pas question de se projeter autre part en un clin d'œil. S'imaginer ailleurs ne donnant rien, pour sortir, il devrait de nouveau traverser le verre qui n'en était pas. Danse entre les chaînes, sans frontières et étincelles, était devant lui. tueur aussi. Bombardée d'images et d'odeurs, Perrine grogna de haine. Une forêt obscure. Tueur. Pour les loups, ce géant était un monstre sombre au visage comme sculpté dans un rocher. Du sang sur l'herbe. Douleur, colère, confusion. Étincelle avait pris un mauvais coup. Les deux autres loups tentaient de distraire Tueur pendant qu'Étincelle, en rampant, s'efforçait d'atteindre la lisière du dôme.
« Attention, jeune taureau !» émit Sauteur. « Cet homme sait chasser. Même s'il est une mauvaise créature, il se déplace presque aussi bien qu'un loup.
Je détourne son attention et tu t'occupes d'Étincelle.
Non. Tu as des bras, tu peux porter. »
Le message n'était pas si simple, bien entendu. Sauteur y faisait aussi mention de son expérience et de son âge, comparé à ceux d'un louveteau. Perrine grinça des dents mais ne discuta pas. Sauteur, incontestablement, était bien plus aguerri que lui. Ils se séparèrent. Perrine retrouva Étincelle, qui s'était cachée entre des arbres. Grâce à son nouveau pouvoir olfactif, il l'avait repéré en quelques secondes. Le loup au pelage foncé avait une flèche dans la cuisse. En rampant, il gémissait et laissait une piste de sang. Perrine s'agenouilla et retira la flèche. De la peur dans son odeur, le loup continua à gémir. Perrine porta la flèche devant ses yeux. Elle empestait le mâle. Révulsé, il la jeta au loin et prit Étincelle dans ses bras. Entendant craquer des brindilles, le jeune homme se retourna. Sans frontières venait de sauter entre deux arbres, et lui aussi sentait la peur. Les deux autres loups, eux, détournaient l'attention de Tueur, l'entraînant aussi loin que possible du blessé. Étincelle dans les bras, Perrine courut vers le mur de verre. Ignorant où il se dressait exactement, il lui était impossible de s'y projeter par la pensée. Il jaillit du couvert des arbres, le cœur affolé. Plus il s'éloignait de la flèche, et plus Étincelle semblait reprendre des forces. Perrine accéléra sa course, avançant à la vitesse de la brise. Enfin, il aperçut le mur de verre, mais dut s'arrêter net. Tueur se dressa soudain devant lui, arc armé. Son manteau noir gonflé par le vent, il ne souriait plus, et ses yeux faisaient penser à un ciel d'orage. Il tira. S'étant décalé, Perrine ne sut jamais où la flèche avait fini par se planter. Revenu à l'endroit où il était entré dans le dôme, il songea qu'il aurait dû commencer par là. Une seconde fois, il chargea, traversa, perdit l'équilibre de l'autre côté et lâcha Étincelle. Le loup gémit de douleur et l'humain encaissa un rude choc.
« Jeune taureau !»
Étincelle émit une image de tueur, sombre comme un nuage d'orage, debout à l'intérieur du mur, son arc prêt à tirer. Perrine ne prit pas la peine de regarder. Se décalant, il se propulsa sur un versant du pic du dragon. Aussitôt, il se releva et son marteau se matérialisa entre ses mains. Plusieurs groupes de loups le saluèrent chaleureusement. Pour l'instant, il choisit de les ignorer. Tueur ne le suivit pas. Après quelques instants de tension extrême, Sauteur apparut.
« Les autres s'en sont tirés ?»«
Ils sont libres, oui, mais Murmure est morte. »
Sauteur ajouta une image de la louve, vue par les yeux des autres membres de la meute, assassinée quelques instants après l'apparition du dôme. Étincelle avait reçu une flèche alors qu'il flanquait des coups de museau à sa compagne, paniqué à l'idée de la perdre. Perrine en rugit de rage. Tenté de retraverser pour en finir avec Tueur, il fut arrêté par un avertissement de Sauteur.
« C'est trop tôt, tu dois apprendre. »«
Ce n'est pas que lui, » dit le jeune homme. « Je dois inspecter la zone autour de mon camp et de celui des Capes Blanches. Dans le monde réel, quelque chose sent mauvais. Je dois découvrir ce qui ne va pas. »
« Ne va pas ?»
Sauteur émit une image du dôme.
« Oui, il y a probablement un lien. »
Les coïncidences, ce n'était pas si fréquent que ça.
« Tu chercheras une autre fois. Tueur est trop fort pour toi. »
Perrine inspira à fond.
« Sauteur, tôt ou tard, je devrais l'affronter. »«
Oui, mais pas maintenant. » »«
Tu as raison, pas maintenant. » »« Alors, entraînons-nous sans tarder. » comme nous le ferons chaque nuit, jusqu'à ce que je sois prêt. »
Rodel Itourald se tourna dans sa couche, le cou poisseux de sueur. Le Saldaea avait-il toujours été si chaud et moite? Que n'aurait-il pas donné pour être à Bandar Eban, en train de savourer la brise fraîche qui soufflait de l'océan? Rien n'allait comme il fallait. Pourquoi les créatures de ténèbres n'attaquaient-elles pas? Une centaine de possibilités tourbillonnaient dans son esprit. Les Trollocs attendaient-ils de nouveaux engins de guerre? Coupait-il des arbres afin d'en fabriquer? Ou leur chef se satisfaisait-il d'un siège statique? La cité était encerclée. mais il devait y avoir assez de trolloques pour submerger ses défenses. L'ennemi recourait au vieux truc des roulements de tambour, sans interruption, avec une terrifiante régularité, comme s'il s'agissait des battements de cœur d'un énorme animal, le grand serpent lui-même, s'enroulant comme un boa autour de Maradone. Dehors, le jour se levait. Le soir, Iturald avait rejoint sa tente bien après minuit. Du coup, Durem, qui commandait la garde du matin, avait ordonné qu'on ne le dérange pas avant midi. La tente du général se trouvait sur la grand-place. Désireux d'être près du mur, il avait refusé qu'on lui octroie une chambre et un lit. De la folie. Même s'il n'avait jamais eu de problème avec les lits de camp des années durant, il n'était plus précisément un jeune homme. Pour le lendemain, il se ferait transférer. En attendant, dors. Plus facile à dire qu'à faire. L'accusation qu'on lui avait lancée à la figure, être un fidèle du dragon, n'était pas facile à avaler. En Arad-Doman, il avait combattu pour son roi, un homme en qui il croyait. À présent, sur une terre inconnue, il se battait pour un type qu'il n'avait vu qu'une fois. Et tout ça sur une intuition. Lumière, quelle fournaise! La sueur qui ruisselait de ses joues finissait par lui irriter le menton. Si tôt le matin, comment pouvait-il faire si chaud? Rien de naturel là-dedans. Et ces maudits tambours qui n'arrêtaient pas. Iturald soupira et se leva. Sa jambe lui faisait mal, et ça durait depuis des jours.
« Tu es un vieux type, Rodel, »
pensa-t-il en retirant ses sous-vêtements trempés. Après en avoir changé, il enfila une simple chemise blanche avec des boutons noirs, mit son pantalon et ses bottes, puis passa sa veste grise et la boutonna jusqu'au menton. Il bouclait son ceinturon d'armes quand il entendit dans le couloir des bruits de pas et des murmures. Les échos de voix se faisant plus forts, il sortit au moment où quelqu'un disait
« Le seigneur Iturald voudra savoir !»«
Savoir quoi ?»
Un jeune messager se querellait avec les gardes du général. Les trois belligérants se tournèrent vers lui, l'air piteux.
« Désolé, seigneur, »
dit Connell.
« Mais on nous a ordonné de te laisser dormir. »«
Pour dormir avec cette chaleur, il faut avoir des lézards dans son ascendance. »« Qu'as-tu à me dire, fils ?»«
Le capitaine Nioeli est sur les créneaux, seigneur. »
Iturald reconnut le messager, qui servait sous ses ordres presque depuis le début de la campagne.
« Il vous demande de venir. »
Iturald hocha la tête.
« Connell, merci d'avoir veillé sur moi. Mais sache, mon vieil ami, que je ne suis pas encore un vieillard fragile. »
Connell s'empourpra. Sur la place, les gardes du corps du général lui emboîtèrent le pas. Le soleil levé, un grand nombre de soldats étaient debout. Un trop grand nombre, en fait. Eux aussi avaient des difficultés à dormir. Sur les remparts, Iturald fut accueilli par un spectacle désolant. Autour de la ville, des milliers et des milliers de trolloques campaient, et des feux brûlaient un peu partout. Déprimé, Iturald préféra ne pas penser à la provenance du bois que les monstres faisaient flamber. Avec un peu de chance, tous les fermiers et les villageois du coin auraient entendu l'ordre d'évacuation d'urgence. Yoeli était accoudé entre deux merlons, un homme en veste noire à ses côtés. Parmi les achamans qu'Altor avait affectés au général, Deep Badar était une huile, un des trois qui portait à la fois un dragon et une épée sur leur col. Ces Tandoriens avaient un visage plat et de longs cheveux blonds. De ci, de là, Iturald avait entendu des achamans parler tout seuls, comme s'ils n'avaient pas toutes leurs raisons. Pas Deep. Lui, il semblait se contrôler parfaitement. Yoeli gardait en permanence un œil sur Deep. Le général le comprenait, car lui non plus n'était pas à l'aise avec les hommes capables de canaliser. Pourtant, ils étaient très utiles, et ne l'avaient jamais déçu. Du coup, il en était presque venu à se fier à son vécu, pas aux rumeurs.
« Seigneur Iturald, »
dit la chamane, sans esquisser un geste. Comme ses collègues, il ne saluait personne d'autre qu'Altor.
« Oui, »
répondit le général. Les hordes de trolloques, constata-t-il en les balayant du regard, n'avaient guère bougé depuis qu'il s'était couché.
« Ton homme prétend sentir quelque chose, »
dit Yoeli.
« Là, dehors. »«
Seigneur Iturald, »
expliqua Deep.
« Ils ont avec eux des personnes capables de canaliser. Au moins 6, selon moi, et peut-être plus. Des hommes, puisque je sens qu'ils manient le Saïdin. Quand je plisse les yeux, il me semble voir des flux, mais c'est peut-être un tour de mon imagination.
« C'était ça qu'ils attendaient !»
grogna Iturald.
« Pardon ?»
demanda Yoeli.
« Avec des achamans dans leur rang.
Ce ne sont pas des achamans !»
coupa Deep, indigné.
« D'accord, d'accord. Avec des hommes capables de manier le pouvoir, ils raseront ces fortifications sans aucune difficulté. Après, un raz-de-marée de trolloques déferlera dans tes rues, Yoeli. Pas tant que je vivrai, »
jura Deep.
J'aime qu'un soldat soit déterminé, Deep, mais tu as l'air aussi épuisé que moi.
Deep foudroya du regard le général. « Pourtant, il avait les yeux rouges à force de manquer de sommeil, et sur son visage, le moindre muscle était tendu à craquer. Croisant le regard d'Itourald, il prit une longue et difficile inspiration.
« C'est exact, » concéda-t-il. « Mais contre ça, nous ne pouvons rien. »
Deep leva un bras et fit quelque chose que le général ne vit pas. Aussitôt, un éclair de lumière rouge jaillit de sa main, le signal qu'il utilisait pour appeler ses compagnons.
« Capitaine général, dites à vos gars d'être prêts. Ce ne sera plus long. Ces hommes ne peuvent pas maintenir un tel volume de pouvoir sans conséquence. »
Yoeli ne se le fit pas dire deux fois. Tandis qu'il s'éloignait, Itourald prit la chamane par le bras pour attirer son attention.
« Toi et tes amis, vous êtes trop importants pour qu'on vous perde. Le dragon vous a chargé de m'aider, pas de mourir ici. Si la ville tombe, partez tous, en emmenant autant de blessés que possible. C'est compris, soldat ? »
Beaucoup de mes collègues n'aimont pas ça.
« Mais tu sais très bien que j'ai raison, pas vrai ?»
Deep hésita à peine.
« Oui, tu parles d'or, comme souvent. Je le ferai, seigneur. »
Deep baissa le ton.
« C'est sans espoir ici. Quoi que fasse l'ennemi, ce sera un désastre pour nous. Je déteste dire ça, mais ce que tu préconises au sujet de mes achamans s'applique aussi à tes soldats. Nous devons tous filer. »
Dans ce mot « filer », Deep réussit à mettre toute l'amertume du monde.
« Yoeli et ses hommes ne partiront pas avec nous. »
« Je sais. »
Itourald réfléchit un peu, puis il secoua la tête.
« Chaque jour que nous gagnons ici est un répit de plus pour ma terre natale. Deep, je ne peux pas partir. Maradon est le meilleur endroit où se battre. Tous les bâtiments étant fortifiés, on tiendra des jours, même en étant séparés. Une bonne façon de retarder l'ennemi. Dans ce cas, nous resterons aussi. Je t'ai donné un ordre, fils, et tu l'exécuteras. Compris ?»
Deep serra les dents, puis il hocha la tête.
« Je prendrai... »
Itourald n'entendit jamais la suite, car une explosion l'assourdit. Il n'avait rien senti arriver. Alors qu'il conversait avec la chamane, il s'était soudain retrouvé sur le sol du chemin de ronde, le monde étrangement silencieux autour de lui. Sa tête lui faisant un mal de chien, il eut une quinte de toux, puis porta une main à son visage et l'en retira rouge de sang. Quelque chose clochait avec son œil droit, qui le torturait dès qu'il tentait de l'ouvrir. Pourquoi ce calme surnaturel autour de lui ? Il roula sur lui-même et toussa de nouveau, l'œil droit fermé et le gauche pleurant d'abondance. À quelques pouces de son nez, le mur disparaissait carrément. Une énorme section de la muraille nord s'était volatilisée, simplement. Sonné, Itourald tenta de regarder dans la direction où se tenait Deep. La chamane gisait lui aussi sur le sol, la tête en sang. En dessous du genou de sa jambe droite, il ne restait plus qu'une bouillie de chair, d'où émergeaient des fragments d'os. Itourald se releva péniblement, tituba, et retomba à genoux, à côté du blessé. Du sang formait une flaque sous son corps, mais il respirait encore.
« Vivant, mais pour combien de temps ? Je dois donner l'alerte. »
« L'alerte ? » Si cette explosion ne l'avait pas donnée, rien n'y ferait. Sur la place, des bâtiments étaient à moitié démolis, écrabouillés par les pierres du mur. Dehors, les trolloques se mettaient en mouvement, portant des radeaux pour traverser les douves. Itourald retira sa ceinture à la chamane et s'en servit pour lui faire un carreau. C'est tout ce qui lui vint à l'esprit.
« La ville est perdue. Comme ça, en un claquement de doigts. »
Des mains aidèrent le général à se relever. Sonné, il reconnut pourtant Connell. Bien vivant, même si sa veste était en lambeaux. Pendant que deux autres soldats se chargeaient de Deep, il entraîna Itourald de loin du désastre. Dans un brouillard, celui-ci descendit l'escalier, manquant deux ou trois fois basculer dans le vide tête la première. Sans Connell, il aurait fait le plongeon. En bas, les deux hommes approchèrent d'une tente, un pavillon plutôt, sans côté. Mais quelque chose n'allait pas. Un champ de bataille ne pouvait pas être silencieux à ce point. Soudain, comme un torrent glacé, l'ouïe du général lui revint. Un incroyable vacarme agressant ses oreilles, il cria à s'en casser les cordes vocales. Des hurlements, des blocs de pierre qui s'écroulaient, des sonneries de trompettes et des roulements de tambours, les cris des agonisants. Tout revint d'un coup, comme s'il avait retiré des bouchons de cire de ses oreilles. Il s'ébroua, le souffle court. Il était à l'infirmerie. Un des achamans, en tail, se penchait sur lui. Mais pourquoi se sentait-il si fatigué ? Le manque de sommeil, plus l'agression de la guérison. Alors que les bruits de la bataille l'assourdissaient, il trouva ses paupières anormalement lourdes.
« Seigneur Itourald, dit Antail. Je connais un tissage qui ne vous guérira pas, mais qui vous donnera l'impression d'aller mieux. L'ennui, c'est que ça peut faire des dégâts.
Vous voulez que j'attende le coup ?
Je... C'est...
marmonna le général.
Par le sang, les cendres !
Grogna Antheil. Il tendit un bras. Une nouvelle vague de pouvoir déferla en Ithurald. Tel un tsunami emportant tout sur son passage, y compris la fatigue et la confusion mentale. Tous ses sens de retour, il aurait juré sortir d'une nuit reposante. Et son œil droit ne lui faisait plus mal. Il restait cependant quelque chose, une sorte d'épuisement dans la moelle de ses os. Mais il pouvait passer outre. Il s'assit, inspira et expira deux ou trois fois, puis regarda Antheil.
Voilà un tissage efficace. Tu aurais dû me dire que tu l'avais à ta disposition.
C'est dangereux, répéta la chamane. Plus dangereux que la version des femmes, d'après ce qu'on dit. Plus efficace aussi. Mais cette vigueur recouvrée, vous la paierez plus tard par une pire fatigue.
Plus tard, nous ne serons plus dans une ville submergée par des trolloques. Avec un peu de chance, en tout cas. Comment va Deep ?
Je me suis occupé de lui en premier, dit Antheil. Il désigna le lit où la chamane était étendue. Vêtements roussis et visage maculé de sang. Sa jambe droite, terminée par un moignon cicatrisé, il semblait respirer, mais n'était pas conscient.
« Connell !»
appela le général.
« Seigneur ?»
fit le soldat en avançant. Malgré le chaos, il avait rameuté quelques hommes pour reconstituer une garde rapprochée.
« Allons faire le point sur ce désastre !»
Ithurald sortit du pavillon et se dirigea vers le palais Cordamora. Dans la ville, en proie au chaos, des groupes de soldats du Saldaea et de l'Arad-Doman couraient en tous sens. Anticipant la volonté de son chef, Connell chargea un messager d'aller chercher Yoeli. Le palais n'était pas très loin des portes de la ville. Sa façade avait souffert, mais il semblait encore solide. Ithurald l'ayant choisi comme quartier général, ses hommes s'attendraient à le trouver là. Connell, portant l'épée de son chef, dont le ceinturon d'armes avait été cassé, le petit groupe entra, monta au troisième étage, puis passa sur un balcon qui dominait la zone touchée par l'explosion. Comme Ithurald l'avait pensé sur le coup, la ville était perdue. Là où le mur s'était écroulé, des défenseurs rassemblés à la hâte se préparaient à faire de leur mieux, mais les premiers trollogues prenaient déjà pied sur l'autre rive des douves, et des dizaines de milliers les auraient bientôt rejoints, suivis par des blafards. Dans les rues, des soldats sonnés par l'explosion erraient sans but. Avec un peu plus de temps pour s'organiser, Ithurald aurait pu tenir, comme il l'avait dit à Deep. Là, c'était trop tard.
Lumière. Cette campagne aura été une accumulation de fiascos.
Qu'on rassemble les achamans,
ordonna le général.
Et tous les officiers qu'on pourra trouver. Il faut se préparer à une retraite en bon ordre.
Oui, seigneur,
dit Connell.
Ithurald, non ! Non !
Cria Yoeli. Uniforme en lambeaux et noir de suie, il venait de débouler sur le balcon.
Tu es vivant,
souffla le général, soulagé.
Excellent, mon ami. Ta capitale est fichue. Désolé, mais c'est la vérité. Si tes hommes se joignent aux miens, nous pourrons...
Yoeli entraîna Ithurald à une extrémité du balcon et tendit un bras vers l'est, d'où montait une épaisse colonne de fumée. Un village brûlé par les trolloques ?
Regarde !
Lança Yoeli.
Les feux de garde ! Ma sœur a vu que des renforts approchent. Nous devons tenir jusqu'à leur arrivée.
Ithurald hésita.
Yoeli,
dit-il enfin,
si une force nous rejoint, elle ne sera pas suffisante pour arrêter une telle horde de trolloques, en supposant qu'il ne s'agisse pas d'une ruse. Les créatures des ténèbres ne sont pas décérébrées. Donne-moi quelques heures,
implora Yoeli.
Résiste avec moi et, via un de tes portails, envoie des éclaireurs évaluer l'importance de ces renforts.
Quelques heures, avec une brèche pareille dans la muraille, nous ne tiendrons pas, mon ami.
Je t'en prie. Ne fais-tu pas partie des grands capitaines ? Montre-moi ce que signifie ce titre, seigneur Rodel Ithurald.
Ithurald tourna le dos à la muraille dévastée. Dans son dos, au sein de la plus haute pièce du palais, ses officiers conversaient. En bas, les défenseurs faiblissaient déjà. Ce ne serait plus long. Montre-moi ce que signifie ce titre. Peut-être que...
Taimot, tu es là ?
Beugla Ithurald. Un rouquin en veste noire accourut sur le balcon. Deep, hors du coup, il devait commander les achamans.
Présent, seigneur Ithurald.
Rassemble tes hommes. Prends le commandement de la brèche et ordonne aux défenseurs de se replier. Après, je veux que vous teniez la position. Une demi-heure. Donnez tout ce que vous avez pour frapper et tuer ces trolloques. Tu as compris ? Tout ce que vous avez. S'il vous reste assez d'énergie pour allumer une bougie avec le pouvoir, après, je vous ferai écorcher vif. Et notre repli, général, laisse Antheil à l'infirmerie. Il ouvrira un portail assez large pour que vous le traversiez ensemble. Tous les autres, tenez-moi cette fichue brèche.
Taimot partit au pas de course.
Yoeli, Ta mission sera de rassembler tes hommes et de les empêcher de courir dans les rues comme...
Ithurald se tut. Il allait dire, comme si c'était déjà Tarmon Gaidon, que la lumière me brûle.
Comme s'il n'avait plus de chef. Si nous voulons tenir, il importe d'être organisé et discipliné. Il me faut 4 escadrons de cavalerie sur la place dans 10 minutes. Donne les ordres requis.
Oui, chef,
lança Yoeli, subjugué.
J'oubliais,
fit Ithurald.
J'aurai besoin de 2 chariots pleins de bois de chauffe, et de tous les tonneaux d'huile que tu trouveras. Sans parler des blessés de nos 2 armées qui peuvent encore courir, mais sont touchés au bras ou au visage. Enfin, déniche tous les gens en ville qui ont un jour tiré à l'arc.
1 heure plus tard, les mains dans le dos, Ithurald attendait. Afin de ne pas s'exposer, il avait quitté le balcon pour regarder par une fenêtre, d'où il avait toujours une excellente vue sur les combats. Derrière la brèche, les Achamans commençaient à faiblir. Mais ils avaient résisté 1 bonne heure, semant la mort dans les rangs ennemis, une incroyable démonstration de la puissance du Saïdine. Par chance, les hommes capables de canaliser de l'adversaire ne s'étaient pas encore montrés. Après leur propre démonstration de force, ils devaient être épuisés. Avec les nuages noirs et la masse sombre de Trolloc devant la cité, on se serait cru au crépuscule. Par chance, les monstres n'avaient pas d'échelle ni de tour de siège. Poussés par les myrdes Draal, ils se jetaient à l'attaque comme des bêtes sauvages. Une partie des hommes en noir reculait déjà en titubant, sans doute parce qu'ils ne parvenaient plus à canaliser. Les derniers lancèrent une dernière salve de feu et de terre, éventrant le sol sous les pieds des Trollocs, puis ils imitèrent leurs compagnons. Selon l'ordre d'Ithurald, ils laissèrent la brèche sans défense.
« Venez !»
pensa le général, alors que la fumée se dissipait. Piétinant les cadavres de leurs semblables, les Trollocs tentaient de voir à travers le rideau de fumée. Prudents, certains humaient l'air. Les rues attenantes à la brèche étaient remplies d'hommes couverts de sang, blessés, et très judicieusement postés. Dès que les Trollocs avancèrent, ils crièrent à tue-tête et coururent ainsi qu'on le leur avait ordonné. À l'évidence, ils ne feignaient pas la terreur. Alors que la plupart des bâtiments environnants semblaient en feu, la scène paraissait plus terrible que jamais. Comment les Trollocs auraient-ils su que les toits d'ardoise étaient justement conçus pour ne pas brûler? De plus, à Maradon, la loi limitait la quantité de bois qu'on pouvait inclure dans un édifice. Ithurald retint son souffle. Les Trollocs chargèrent, déboulant dans la ville avec leurs rugissements et leurs cris. Comme prévu, ils se divisèrent par petits groupes en fonction des occasions de piller et de tuer qui se présentaient à eux. Dans le dos d'Ithurald, une porte s'ouvrit pour laisser passer Yoeli.
Les derniers rangs sont en position. Le plan fonctionne?
Ithurald ne répondit pas. Pour savoir ce qui se passait, il suffisait de regarder dehors. Croyant la bataille gagnée, le dernier baroud des Achamans pris pour un aveu de défaite, les Trollocs pensaient voir une ville livrée au chaos. Pensaient voir. De fait, les monstres arpentaient les rues avec une certaine allégresse. Même les myrdes Draal qui les suivaient semblaient détendus. Les Trollocs évitèrent les bâtiments en feu et le palais, parce qu'il était fortifié. Lancés à la poursuite des fugitifs, ils s'enfoncèrent en ville, la plupart s'engouffrant dans une large avenue qui conduisait vers le secteur est. Des gravats sciemment installés à l'entrée les encourageaient à s'aventurer par là.
« As-tu l'ambition de devenir général, capitaine Yoeli ?»
demanda Ithurald.
« Mes ambitions n'ont aucune importance, mais seul un imbécile n'aurait pas l'espoir d'apprendre.
Dans ce cas, sois attentif à cette leçon, fils. »
En bas, des volets s'ouvraient tout au long de l'avenue empruntée par les Trollocs. Sur les balcons, des archers se mirent en position.
« Quand tu as ne serait-ce que l'impression de faire ce que l'ennemi attend de toi, dépêche-toi de passer à autre chose. »
Les archers tirèrent, et les Trollocs tombèrent comme des mouches. De grandes arbalètes, dont les carreaux avaient presque la taille de lances, martelèrent les blafards, et plusieurs titubèrent sur les pavés, ignorant encore qu'ils étaient morts, mais déjà plus de ce monde. Désorientés et fous de rage, les monstres tentèrent de défoncer les portes des bâtiments où étaient postés les tireurs. Alors, le tonnerre éclata. Le bruit de milliers de sabots. L'élite de la cavalerie de Yoeli, chargeant lances pointées. Éventrés ou égorgés, les Trollocs tombèrent par centaines. Maradon devint un piège géant. Pour tirer, on ne pouvait pas rêver meilleure position que ses fenêtres et ses balcons, et l'avenue, plus quelques autres rues, avait la largeur idéale pour des cavaliers qui la connaissaient bien. Les cris de joie des Trollocs se muèrent en hurlements de douleur. Dans leur hâte de revenir sur leurs pas, ils se renversaient les uns les autres, se piétinant à l'occasion. Poussés par les cavaliers, ils déboulèrent sur la grande place. Les hommes de Yoeli ne les lâchèrent pas, les sabots et les flancs de leurs montures souillés d'un sang immonde. Alors, d'autres archers apparurent aux fenêtres des bâtiments en feu. En réalité, des incendies soigneusement contrôlés dans des pièces isolées des autres et entreprirent de cribler de flèches les envahisseurs. Dans les rues, les soldats fournirent des lances neuves aux cavaliers. De nouveau équipés, ceux-ci fondirent sur les Trollocs. Les archers cessèrent de tirer, leur offrant tout loisir de massacrer les monstres sans risquer de prendre une flèche. Des centaines de Trollocs y laissèrent leur peau, des milliers peut-être. Terrorisés, les survivants s'enfuirent par la brèche. Malins, les Myrdraals furent les premiers à filer. Les rares retardataires devinrent des cibles de choix pour les archers. En tuer un revenait à abattre les dizaines de Trollocs liés à lui. Les blafards succombaient, certains hérissés de plus de 20 flèches.
« Je donne l'ordre de rassembler les hommes et de défendre de nouveau la brèche ?»
demanda Yoeli.
« Non.
Mais nous battre sur cette brèche n'aurait aucun intérêt, fils. Ordonne aux hommes de se poster dans d'autres bâtiments. Même chose pour les archers. Y a-t-il des entrepôts assez grands pour abriter les cavaliers ? Dans ce cas, qu'ils y aillent. Ensuite, nous attendrons. L'ennemi ne se laissera pas prendre de foi.
Exact,
admit Thurald.
Mais quand ils reviendront, les Trollocs seront prudents et... lents. Si on charge, on se fera massacrer. En tenant et en gagnant du temps, on finira par les avoir. C'est la seule solution, Yoeli. Survivre jusqu'à l'arrivée des renforts. S'ils viennent.
Yoeli approuva du chef.
Notre prochain piège tuera moins de Trollocs. Mais par nature, ce sont des trouillards. Savoir que n'importe quelle rue peut se transformer en piège mortel les rendra circonspects. De quoi gagner plus de temps qu'en perdant la moitié de nos gars sur cette brèche.
Compris.
Yoeli hésita un peu.
Mais ne faut-il pas, pour que ça marche, qu'il prévoie nos actions? Sans ça, cette phase du plan ne fonctionnera pas.
J'imagine que tu as raison.
Alors, ne devons-nous pas changer de tactique? Tu as dit que ça s'impose, quand l'ennemi s'attend à ce qu'on va faire.
Tu réfléchis trop, fils. Va plutôt exécuter mes ordres.
Oui, seigneur.
Yoeli joignit le geste à la parole.
C'est exactement pour ça que je ne devrais jamais donner de leçons de tactique.
Comment expliquer à des disciples qu'une règle primait toutes les autres, toujours se fier à son instinct? Les Trollocs seraient effrayés, et Thurald comptait en tirer parti. Bref, il faisait flèche de tout bois, avec ce que l'ennemi lui fournissait. Le général évita de réfléchir trop longtemps à sa règle, de peur de découvrir qu'il venait très récemment de la violer. Parce que son instinct lui criait qu'il aurait dû ficher le camp de cette maudite ville, des heures plus tôt.